Imaginez un peu le truc. On a ce verset biblique hyper célèbre, le genre de verset super réconfortant sur la prière en groupe. Le fameux là, où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Ouais, le grand classique qu'on sort tout le temps dans les réunions.
C'est ça. Eh ben, imaginez, découvrir que ça n'a historiquement absolument rien à voir avec une prière paisible.
Ah non, carrément pas, non.
En fait, c'est le cadre juridique strict d'un tribunal ecclésiastique conçu pour excommunier quelqu'un.
C'est fou quand on y pense.
C'est dingue. Et aujourd'hui, notre mission, c'est justement de plonger dans les notes de conférence du docteur Craig Kinner. On va analyser les chapitres 16 à 19 de l'Évangile selon Matthieu.
Tout à fait.
Et l'objectif, c'est vraiment pas de survoler des dogmes un peu figés, mais de découvrir comment ces textes, qui abordent tout, de la transfiguration aux impôts, en passant par le divorce, cachaient en fait la révolution sociale la plus radicale du premier siècle.
Exactement. L'enjeu de cette exploration, c'est vraiment de comprendre la mécanique de ce bouleversement.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Ces sources nous montrent une remise en question totale des normes de l'époque, non ?
Ouais, c'est exactement ça. Ces chapitres, c'est pas juste une petite collection de règles morales déconnectées. Il s'agit de redéfinir entièrement ce que signifie le pouvoir, l'autorité, la justice.
D'accord.
Et ce qui rend l'analyse de Kinner si pertinente, enfin pour moi, c'est qu'elle nous force à enlever nos lunettes modernes.
Ouais, on a tendance à tout lire avec notre vision d'aujourd'hui.
C'est clair. Là, on doit observer l'impact brut de ces enseignements sur un public du 1er siècle. Un public qui vit sous occupation militaire romaine, tu vois, et qui est régi par des codes d'honneur et de honte extrêmement rigides.
C'est un contexte sous haute tension. Et pour reposer les bases de cette nouvelle autorité, les sources commencent par une scène très visuelle, presque cinématographique, je dirais.
Ah, la transfiguration.
Exactement. On y voit Jésus sur une haute montagne, son visage rayonne comme le soleil, ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante et on a Moïse et Élie qui apparaissent à ses côtés.
Rien que ça.
Rien que ça. Et en lisant les notes, on se rend vite compte que pour un lecteur juif de l'Antiquité, cette scène, c'est pas juste jolie, c'est un immense panneau clignotant.
Oui, un énorme appel du pied.
Voilà, ça renvoie directement à l'histoire de Moïse sur le mont Sinaï.
Les parallèles littéraires sont vraiment construits pour être indéniables, en fait. Par exemple, le texte mentionne une attente de 6 jours avant de monter sur la montagne.
Ce qui n'est pas un hasard, je suppose.
Pas du tout. Ça fait écho direct au livre de l'Exode. La nuit est lumineuse, la voix divine, le visage qui rayonne. Tout indique que Matthieu présente Jésus comme le nouveau Moïse, quoi.
Le nouveau Moïse, d'accord.
Et le livre du Deutéronome, au chapitre 18, promettait qu'un prophète semblable à Moïse viendrait un jour et que le peuple devrait, je cite, « l'écouter ». Et la voix divine sur la montagne reprend cette instruction mot pour mot, écoutez-le.
Sauf que, et c'est là que les sources précisent un truc super important, il ne s'agit pas d'un simple Moïse 2.0.
Non, c'est bien plus que ça.
Il y a un changement de statut fondamental. Moïse, quand il descendait du Sinaï, il rayonnait parce qu'il avait été exposé à la gloire de Dieu.
C'est ça.
Il fonctionnait un peu comme un miroir ou comme la lune qui reflète la lumière du soleil. Mais ici, Jésus ne reflète pas la lumière, il en est la source.
Exactement.
Il dialogue d'égal à égal avec Moïse et Élie. Il se positionne pas du tout comme un successeur, mais vraiment comme l'autorité suprême.
Et c'est vraiment le cœur du message. Mais l'auteur de l'Évangile crée immédiatement après un contraste littéraire qui est saisissant.
C'est-à-dire ?
À peine descendu de ce sommet de gloire divine, les disciples qui étaient restés en bas, eux, ils sont embourbés dans un échec total.
Ah oui, l'histoire de l'exorcisme raté.
Voilà. Ils tentent d'exorciser un jeune garçon et ils n'y arrivent absolument pas.
Et au passage, il y a un détail fascinant soulevé par les notes du docteur Kinner concernant cet incident.
Vas-y.
Dès le chapitre 4, Matthieu fait une distinction très nette entre des conditions médicales neurobiologiques, comme l'épilepsie, et la possession spirituelle.
C'est super important de le rappeler.
Ouais, parce qu'on a souvent l'arrogance de croire que les anciens attribuaient le moindre rhume à des démons.
Grave.
Mais ici, le texte montre un discernement clair. Il y avait une véritable compréhension que tous les troubles nerveux n'étaient pas d'origine surnaturelle.
Et tu vois, ce discernement rend l'échec des disciples d'autant plus significatif, en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont face à une véritable oppression spirituelle et ils s'effondrent. Lorsque Jésus intervient et règle la situation, ils pointent tout de suite la racine de leur problème.
Qui est ?
La petitesse de leur foi. Et c'est là qu'intervient la fameuse illustration de la foi comme un grain de sénévé. Une graine minuscule capable de déplacer des montagnes.
Alors, c'est un peu paradoxal, non ?
Comment ça ?
On nous dit qu'ils ont peu de foi et ensuite on nous dit qu'une foi minuscule, comme un grain, ça suffit. C'est presque contradictoire.
C'est vrai que vu comme ça, ça peut paraître étrange.
Moi, je vois ça un peu comme le signal Wi-Fi.
Ah, j'aime bien l'idée.
C'est pas la taille physique de l'antenne sur ton téléphone portable qui compte, ni la force avec laquelle tu serres l'appareil dans tes mains en espérant capter un truc.
Ouais, on l'a tous fait.
Ce qui fait que ça fonctionne, la vraie magie, c'est la puissance du routeur, de la box à laquelle cette petite antenne est connectée.
C'est une super analogie. Et ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce déplacement de l'attention.
C'est-à-dire qu'il regardait au mauvais endroit.
Exactement. L'erreur des disciples, c'était de se concentrer sur leur propre capacité, leur propre performance spirituelle.
Ils voulaient générer eux-mêmes le Wi-Fi.
C'est ça. Ils essayaient de générer du pouvoir. Mais l'analogie du grain de sénévé montre que la grandeur du miracle ne dépend pas de la quantité de foi de la personne. Ça dépend de l'infinie grandeur du Dieu en qui cette foi, même fragile, est placée.
Donc le focus est sur l'objet de la foi, pas la taille de la foi.
Voilà. Ils avaient oublié la leçon de la transfiguration. L'autorité vient de la source, pas des intermédiaires.
C'est profond. Mais alors si cette autorité cosmique vient entièrement de Dieu, ça pose une question très concrète pour la vie de tous les jours.
Laquelle ?
Comment des individus dotés de cette compréhension sont-ils censés interagir avec les structures de pouvoir humaines ? Des structures souvent oppressives, terrestres, parce que bon, on ne passe pas sa vie sur une montagne mystique.
Non, il faut bien redescendre sur Terre, faire ses courses, payer ses factures.
Et justement, ça nous mène à cet épisode étrange sur le paiement de l'impôt du temple, le fameux demi-cycle.
Ah, le demi-cycle ! Alors cet impôt, c'était une taxe annuelle exigée de chaque homme juif adulte pour l'entretien du temple de Jérusalem.
D'accord.
Et il faut bien comprendre le contexte sociopolitique de l'époque. La Judée est sous occupation romaine.
Donc l'ambiance est déjà tendue ?
Ultra tendue. Payer des taxes à l'Empire romain, c'était une source d'immenses tensions. Mais l'impôt du temple, lui, était censé être un marqueur d'identité et de dévotion à Dieu.
Et dans le récit, on vient demander à Pierre si son maître paye cet impôt. Et là, en privé, Jésus donne une sorte de leçon de logique théologique à Pierre.
Tout à fait.
Il lui dit... En substance, les rois de la terre font payer des taxes aux étrangers, pas à leurs propres enfants.
Logique implacable.
Donc techniquement, en tant que fils de Dieu qui est le propriétaire du temple, Jésus affirme qu'il devrait logiquement être exempté de cette taxe.
La déduction est irréprochable sur le plan théologique, je suis bien d'accord. En tant que fils, il est libre. Mais, et c'est là que c'est fort, la conclusion qu'il en tire prend tout le monde à contre-pied.
Il ne fait pas de scandale.
Non. Au lieu de brandir ses droits et de créer un esclandre politique, Jésus décide de payer l'impôt. Et le motif donné dans le texte est crucial, c'est pour ne pas les scandaliser, ou plus littéralement, pour ne pas créer d'obstacles, pour ne pas les faire trébucher.
C'est chou, parce qu'on a souvent tendance à se focaliser sur le côté spectaculaire de la suite de l'histoire.
Le fameux poisson.
Oui, hein. Pierre va pêcher, et le premier poisson qu'il attrape a miraculeusement une pièce dans la bouche de la valeur exacte pour payer l'impôt de deux personnes. C'est l'anecdote qu'on retient.
Bien sûr, ça marque les esprits.
Mais les sources insistent bien sur le fait que le miracle zoologique, au final, n'est qu'un détail logistique.
Un simple moyen de paiement.
Voilà, le vrai point central, c'est cette grâce sociale.
Complètement. Le comportement de Jésus montre que la véritable liberté spirituelle n'exige pas de se rebeller contre chaque contrainte sociale.
On n'est pas obligé de chercher la bagarre à chaque feu rouge, quoi.
Exactement. Insister sur ses droits à ce moment précis, ça aurait été perçu par la communauté juive comme un mépris de Dieu lui-même. Ça aurait créé une barrière inutile. Donc, il choisit de s'adapter aux structures existantes pour préserver l'harmonie, pour maintenir un dialogue possible.
C'est une subordination volontaire, guidée par le respect d'autrui.
C'est très noble.
Mais alors, ça soulève un autre problème. Si la priorité est de ne pas heurter la société de l'extérieur en s'adaptant, que se passe-t-il quand le conflit vient de l'intérieur ?
Ah, la grande question de la gestion de crise interne.
Oui, comment réagir face à quelqu'un qui, au sein même de cette communauté naissante, brise intentionnellement cette paix.
Et c'est ce qui rend le chapitre 18 sur la discipline ecclésiastique si pertinent.
Et pour le comprendre, d'après nos sources, il faut s'attaquer à ce jargon rabbinique, ce fameux truc de lier et délier.
Oula, oui. Lier et délier, ça c'est un langage qui a été largement mal interprété à l'époque moderne.
On pense souvent à des trucs mystiques, non ?
Ouais, c'est souvent associé à des pratiques d'exorcisme, de combat spirituel, de chasser des esprits.
Alors que pas du tout.
Pas du tout. Dans le judaïsme du 1er siècle, c'était un vocabulaire juridique et rabbinique extrêmement courant.
Du droit pur et dur, en fait.
C'est ça. Lier signifiait interdire une action ou condamner une personne, l'exclure en gros. Et délier, ça signifiait permettre une action ou acquitter quelqu'un.
Donc on parle vraiment de jurisprudence.
Complètement. Il s'agissait du pouvoir accordé à une communauté ou à ses dirigeants d'exercer une discipline judiciaire.
Le processus que Mathieu décrit pour gérer un membre abusif ou destructeur pour le groupe est super graduel.
Très méthodique, ouais.
D'abord, une confrontation privée, juste à deux. Si ça échoue, on revient avec un ou deux témoins. Et si la personne s'obstine encore, le cas est porté devant toute l'assemblée de l'Église.
Et on y arrive.
Et c'est là qu'on revient à ce verset choc dont j'ai parlé au tout début. Le fameux « là où deux ou trois sont assemblés en mon nom ». Nos sources démontrent complètement l'image douce et cosy qu'on s'en fait.
Ben oui, parce que le contexte dicte toujours le sens. L'expression « deux ou trois » n'est pas choisie au hasard pour désigner un petit groupe de prières autour d'une guitare.
C'est pas un feu de camp.
Pas du tout. Ça fait directement référence à la loi du Deutéronome, chapitre 17, qui stipule qu'une condamnation ne peut être prononcée que sur la déposition de deux ou trois témoins.
Donc c'est le quorum d'un tribunal.
Exactement. Dans les synagogues antiques, qui fonctionnaient aussi comme des tribunaux locaux, c'était la norme. Jésus donne ici à la communauté le pouvoir de juger et d'excommunier les éléments toxiques. Il promet que lorsque cette assemblée difficile doit se réunir pour rendre un jugement disciplinaire douloureux, l'autorité divine valide leur décision.
C'est lourd de sens, et il faut bien mesurer ce que signifiait une excommunication à cette époque-là.
C'était pas juste se faire virer d'un groupe Facebook.
C'est clair. Dans le monde méditerranéen antique, l'identité d'un individu était entièrement liée à son groupe. Être exclu de la communauté, c'était perdre son filet de sécurité économique, social, affectif.
C'était la mort sociale.
Une sentence presque capitale, ouais.
Et c'est pour ça que le processus est si rigoureux et pourquoi c'est un ultime recours. L'objectif premier est toujours la restauration de la personne lors des étapes privées.
On essaye de sauver la relation d'abord.
Toujours. Mais si un individu refuse de changer un comportement destructeur, l'assemblée a le devoir de s'en séparer.
Pour protéger les autres.
Et bien sûr, pour protéger les plus vulnérables en son sein. La communauté ne peut pas survivre si elle tolère des prédateurs ou des abuseurs sous couvert de fausse tolérance.
C'est très actuel comme réflexion, finalement. Mais du coup, si cette assemblée possède un tel pouvoir de condamnation pour se protéger, quelles sont les limites de la clémence ? Ça déclenche logiquement la question de Pierre qui s'approche de Jésus et demande un truc du genre « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Jusqu'à 7 fois ?»
Et Pierre, à ce moment-là, il est convaincu de faire preuve d'une générosité exceptionnelle.
Il pensait avoir le bon point.
C'est ça. Faut savoir que les traditions rabbiniques de l'époque recommandaient généralement de pardonner 3 fois.
3 fois, c'est déjà pas mal.
Oui. Donc Pierre, il double le chiffre et il ajoute un 1. 7 fois. Il propose une clémence bien supérieure à la norme sociale.
Et la réponse de Jésus ?
Jusqu'à 70 fois 7 fois.
Aïe !
Ça détruit l'idée même de tenir un registre. On ne parle pas de 490 fois de façon littérale, on parle d'un pardon illimité.
Et la parabole du serviteur impitoyable qui suit, censée illustrer cette idée, contient des détails mathématiques qui m'ont laissé perplexe en lisant les notes.
Ah oui, les fameux talents.
Le roi demande des comptes à un serviteur qui lui doit 10 000 talents. D'après Kiner, un seul talent représentait environ 20 ans de salaire pour un ouvrier moyen.
C'est déjà une vie de travail.
Voilà. Donc 10 000 talents, ça équivaut à 230 000 années de travail quotidien ininterrompu.
C'est vertigineux.
Mais attends, le public antique devait bien voir que c'était économiquement absurde, non ? Pourquoi utiliser un chiffre aussi ridicule ? Ça ruine la crédibilité réaliste de l'histoire, non ?
Non, parce que l'absurdité économique, c'est le moteur même de la parabole.
C'est fait exprès.
C'est une hyperbole délibérée. Pour donner un ordre d'idée de la démesure Hérode le Grand, qui imposait une taxation écrasante sur tout son territoire pour financer des projets de construction pharaoniques.
Oui, il ne les régalait pas avec les impôts, lui.
Ah ça, non. Eh bien, Hérode ne récoltait qu'environ 800 talents de revenus annuels.
800 talents pour tout un royaume.
Voilà. Donc l'idée qu'un seul serviteur ait pu amasser une dette personnelle de 10 000 talents, c'est comique.
D'accord, c'est une blague cosmique.
C'est ça. Le but est de créer une dette métaphorique si colossale qu'elle représente le poids infini de nos propres fautes envers la perfection divine. C'est une banqueroute spirituelle incommensurable.
Je vois. Et donc le roi décide, dans un élan de miséricorde incompréhensible, d'effacer purement et simplement cette dette.
Il annule tout.
Mais la tragédie, c'est ce qui se passe ensuite. Ce serviteur gracié sort, croise un collègue qui lui doit 100 deniers.
ce qui représente environ 3 mois de salaire.
Et là, le texte précise qu'il le saisit à la gorge pour l'étrangler.
Littéralement.
Et les notes historiques rappellent que l'étranglement physique par les créanciers était une pratique malheureusement courante dans l'Antiquité romaine pour forcer le remboursement d'une petite somme.
C'est très violent.
C'est glaçant. Imaginez un homme à qui un tribunal vient d'effacer miraculeusement une dette fiscale de plusieurs milliards d'euros.
Le genre de truc qui n'arrive jamais.
Et en sortant du palais de justice, cet homme engage immédiatement une procédure d'expulsion contre son propre frère parce qu'il lui doit 100 euros.
C'est profondément révoltant. La disproportion est le cœur du message moral ici. Le serviteur impitoyable exige une justice brutale et immédiate pour une dette qui représente à peine 1/1000000ème de ce qui lui a été pardonné quelques minutes plus tôt.
C'est de l'hypocrisie à l'état pur.
Et l'indignation que suscite cette scène chez les autres serviteurs de l'histoire reflète ce que le lecteur est censé ressentir.
Ce sentiment de « mais c'est pas juste, c'est dégueulasse ».
Exactement. La sévérité de la conclusion de la parabole où le roi finit par jeter le serviteur impitoyable en prison souligne un principe fondamental.
Lequel ?
Recevoir la grâce de Dieu exige d'être transformé par elle. Refuser de pardonner aux autres à notre petite échelle, c'est agir comme si le pardon immense que nous avons reçu n'avait aucune valeur. C'est rendre la grâce de Dieu ridicule aux yeux du monde.
C'est une sacrée gifle.
Ouais.
Et ça nous amène au chapitre 19. L'application la plus radicale de cette miséricorde infinie et de cette idée de protéger la communauté se trouve dans la façon dont Jésus redéfinit le traitement des membres les plus faibles de la société antique.
Très important.
Au 1er siècle, la vulnérabilité extrême touchait principalement deux groupes, les femmes et les enfants.
Les grands oubliés des systèmes de pouvoir.
Exactement. Et là, on aborde la question brûlante du divorce. L'analyse de Kinner explique qu'à l'époque, les pharisiens débattaient furieusement de l'interprétation d'une loi du Deutéronome.
Le fameux chapitre 24, verset 1.
Voilà. Il y avait deux grandes écoles juridiques, c'est bien ça ?
Oui. D'un côté, l'école de Shammai, très conservatrice, qui estimait qu'un homme ne pouvait répudier sa femme qu'en cas d'infidélité sexuelle.
Donc des motifs très restreints.
Très restreints. De l'autre côté, l'école de Hillel s'appuyait sur une formulation un peu floue, je cite, « quelque chose de honteux ».
Et ils en faisaient quoi de ce truc flou ?
Ils l'utilisaient pour affirmer qu'un homme pouvait divorcer pour n'importe quelle cause.
N'importe laquelle ?
Ouais. Même si sa femme laissait simplement brûler le dîner. Et apparemment, c'était l'école de Hillel qui dominait largement la pratique populaire.
Ah oui, c'est super pratique pour les maris, ça.
L'école de Hillel offrait aux hommes un système juridique sur mesure pour répudier leurs épouses de manière presque arbitraire.
Et le piège tendu à Jésus consistait à l'obliger à choisir un camp au sein de ce débat rabbinique.
T'es Hillel ou t'es Shammai ?
Mais Jésus, il fait quoi ? Il choisit de contourner totalement le cadre législatif de Moïse dans le Deutéronome. Au lieu de débattre des motifs légaux de la répudiation, il remonte au livre de la Genèse, au récit de la création, pour rappeler l'intention originelle d'une union indissoluble.
C'est un coup de maître.
C'est dingue. Est-ce que Jésus agit ici comme une sorte d'avocat constitutionnel ?
C'est une super façon de le formuler.
En gros, il leur explique que la loi de Moïse dans le Deutéronome, c'était juste une ordonnance locale, temporaire, conçu uniquement pour limiter les dégâts d'une société cruelle. Mais que pour trouver le véritable idéal, il faut se référer à la Constitution suprême, la Genèse.
L'analogie de la Constitution est vraiment éclairante. Les lois civiles de l'Ancien Testament, comme le montre Kinner, n'étaient pas toujours l'expression de la volonté parfaite de Dieu.
C'était quoi alors ?
C'était plutôt des mécanismes d'endiguement. Elles géraient la dureté de cœur des hommes.
Du contrôle des dégâts.
Voilà. Et il faut comprendre la brutalité de la situation de l'époque. Dans le monde antique, une femme répudiée perdait tout son statut social.
Elle se retrouvait à la rue.
Quasiment. Elle n'avait aucune opportunité économique, ne pouvait généralement pas subvenir à ses propres besoins et perdait très souvent le droit de voir ses propres enfants.
C'est horrible.
Donc le divorce, sous prétexte d'un dîner brûlé, la condamnait purement et simplement à la misère ou à la prostitution pour survivre.
Ce qui change complètement notre perspective moderne. Parce qu'aujourd'hui, en restreignant drastiquement les motifs de divorce, en l'interdisant sauf en cas d'infidélité, on pense souvent que Jésus adoptait une posture ultra-conservatrice et moralisatrice.
Alors que c'est tout l'inverse.
Historiquement, il protégeait les femmes d'une répudiation arbitraire. Il détruisait une faille juridique masculine qui permettait aux forts de primer les faibles en toute légalité.
C'est exactement ça. La restriction du divorce, dans ce contexte précis, est une mesure de protection sociale radicale. Jésus refuse de cautionner un système qui jette la partie vulnérable à la rue comme un vieux chiffon.
Il redonne de la valeur à l'engagement.
Il rétablit l'idée que le mariage est une alliance qui exige responsabilité et loyauté, et non un simple contrat de complaisance que l'homme peut rompre à sa guise.
Le choc provoqué par cette exigence est palpable. Même ses propres disciples réagissent mal.
Oh oui, ils paniquent un peu.
Ils disent un truc du genre « si c'est comme ça, il n'est pas avantageux de se marier ».
En gros, s'ils ne peuvent plus se débarrasser de leur femme facilement, ils préfèrent carrément rester célibataires.
C'est tellement révélateur de leur mentalité. Et la réponse de Jésus est inouïe. Il valide le célibat en utilisant l'image de l'eunuque, ceux qui se sont fait eunuques pour le royaume des cieux.
Un terme très fort.
Nos sources précisent qu'à l'époque, se marier et avoir des enfants était un devoir religieux absolu, et le terme « eunuque » était profondément péjoratif.
C'était une insulte, vraiment.
Mais Jésus prend cette insulte, cette catégorie sociale marginalisée et méprisée, et la transforme en une vocation honorable.
Il renverse le stigmate, complètement. En validant le célibat, il affirme qu'une personne n'a pas besoin d'être mariée ou d'avoir une descendance pour posséder une valeur intégrale au sein du royaume de Dieu.
C'est une révolution pour l'époque, hein.
C'est une émancipation énorme par rapport aux structures familiales traditionnelles de l'Antiquité. Ça offre de la dignité à ceux qui ne rentraient pas dans le moule classique.
Et cette revalorisation des marginaux, bah, ça nous mène logiquement au traitement des enfants à la fin du chapitre 19.
La fameuse scène des petits-enfants.
On assiste à cette scène où on amène des enfants à Jésus et les disciples tentent de les repousser.
Ils se comportent comme des videurs de boîtes de nuit.
C'est ça, un service de sécurité chargé d'écarter les nuisances. Dans leur esprit, le maître est occupé par l'organisation politique de la rébellion, par des affaires d'adultes, des choses sérieuses.
Et les enfants, qui n'avaient aucun statut légal ou économique, étaient perçus comme une pure perte de temps.
Zéro utilité sociale.
Zéro. L'obsession des disciples pour la grandeur humaine et le pouvoir politique les aveugle complètement, en fait.
Ils ont toujours pas compris le principe du grain de sénévé.
C'est clair. Pour eux, le pouvoir consiste à s'entourer de personnes influentes. Mais l'intervention de Jésus redéfinit encore une fois l'essence de son mouvement.
Il les accueille.
Il fait plus que ça. Il affirme que le royaume de Dieu leur appartient. S'occuper de ceux qui n'ont rien à offrir en retour, de ceux qui n'ont aucun poids social, ce n'est pas un frein à la mission.
C'est la mission elle-même.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend du recul sur l'ensemble de ces chapitres de Matthieu 10?
C'est vertigineux quand on assemble toutes les pièces.
Lise de Kainer nous force vraiment à voir une déconstruction méthodique des systèmes de pouvoir.
Absolument.
Le vrai pouvoir spirituel ne provient pas de nos performances, mais de notre connexion à la source. La vie en société exige d'abandonner ses propres privilèges pour ne pas créer d'obstacles.
Et la justice interne ?
Voilà, la justice interne d'une communauté ne vise pas la simple punition, mais la restauration alimentée par l'expérience d'un pardon cosmique. Et surtout, et c'est peut-être le plus frappant, aucune loi, pas même une loi religieuse ancestrale, ne doit être utilisée comme une arme pour précariser et abandonner les plus vulnérables.
C'est un changement de paradigme qui traverse vraiment les siècles. En découvrant que certaines lois civiles, bibliques, comme celle du Deutéronome sur le divorce, n'étaient à l'origine que des concessions temporaires face à l'égoïsme humain.
Ça fait réfléchir.
Ça ouvre une perspective d'analyse incroyable sur notre propre époque.
Bah oui. Si l'on applique cette logique à notre monde moderne, on est en droit de se demander combien de nos législations actuelles, de nos systèmes économiques, de nos normes sociales, qu'on considère souvent comme la forme ultime du progrès, ne sont en réalité que de sombres concessions à nos propres faiblesses.
Au lieu d'être la façon dont l'humanité était véritablement censée vivre ensemble au départ.
C'est une pensée qui invite sérieusement à remettre en question le confort de nos propres systèmes, tu ne trouves pas?
Oh que oui, ça bouscule pas mal de certitudes.
Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser ceux qui nous écoutent méditer là-dessus, parce qu'il y a de quoi faire.
Carrément.
À la prochaine pour une nouvelle analyse approfondie.
Salut!